Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou.
Je vais aux toilettes.
Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu. C'est de la pomme de terre.
30 secondes.
Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur.
Ça coûte, c'est marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre?
J'ai pris le gros sel à la place du sucre, Gaston.
Tu veux rentrer chez toi?
J'ai pas envie de
rentrer chez toi.
Je veux pas rentrer chez moi.
Il est parti.
C'est la catastrophe.
J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles.
3, 2, 1, c'est parti.
Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Ondes Podcast épisode 9, votre podcast sur Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français tous les mercredis soirs sur M6 et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débrief avec la brigade habituelle. On a failli avoir un changement dans la brigade et finalement non, Raphaël Masmejean se désistait, hein, disons-le, mais Marco lui était là, prêt à remplacer comme toujours. Salut Marco.
Salut Raoul, salut Seb, salut tout le monde.
Et Sébastien Poloménie est avec nous, notre caution cuisine, évidemment, il est là, salut Seb.
Salut Raoul, salut Marco, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Écoute, on va très très bien, en tout cas je le crois, on est content, messieurs, on va pouvoir commencer par ça, de l'émission d'hier, une émission un peu à l'ancienne, avec des trucs pas trop compliqués et des épreuves sympas, on va revenir là-dessus. On va revenir sur ce qui s'est passé, ce qu'on nous a annoncé vis-à-vis de certains candidats qui partent, qui reviennent. Bon, on parlera tout ça en fin d'émission, pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas voulu regarder le teaser de la semaine prochaine, et on fera notre classement, vous en avez l'habitude, c'est parti, je mets un petit jingle et on se retrouve juste derrière pour parler de tout ça. Let's go.
Samuel, c'est le patriarche de la saison. C'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
Allez, dernière minute.
Je te demande pas on fait un enfant, non. Je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas.
Messieurs, l'épreuve que nous attendions avec impatience hier soir, la première, le retour du chef, le retour du roi, Adrien Cachot, finaliste, perdant dans les faits mais gagnant dans nos cœurs de la saison 11, était avec nous, était sur le plateau. C'était déjà rien que l'arrivée avec Paul Perret dans les bras. Moi déjà j'étais conquis, je me suis dit c'est bon, ma soirée est réussie, cette émission est réussie. Marco, est-ce que toi aussi tu étais comme un fou devant le retour du GOAT?
J'avais peur, comme certaines émissions auparavant, d'être un peu déçu, de m'être fait trop d'idées. Et je pense honnêtement que, enfin pour moi, c'était la meilleure émission, de la saison jusqu'ici, que ce soit la première épreuve, la deuxième épreuve, je me suis régalé hier.
Pareil, Seb, toi aussi de ton côté.
Ah oui, complètement. Là. Depuis sa défaite en finale, la France pleurait, elle réclamait son retour. Voilà, il est revenu. Fidèle à lui-même, avec ce vieux tchèque des années 70 avec le chef Perret. Bon, après, l'épreuve était sympa aussi, ça change un peu des trucs qu'on peut voir habituellement.
Ça change, et puis c'est pas trop non plus tiré par les cheveux, je trouve, puisque ça reste de la cuisine, certes qu'on voit peu, mais en fait qu'on peut s'imaginer, d'autant que on va revenir sur le déroulé de l'épreuve, mais même si ce jury de personnes qui ont été cataloguées à vie comme n'aimant pas les abats, hein, ça doit être marqué sur leur carte d'identité, ça servait pas grand-chose, mais au moins ça donnait un côté accessible pour le téléspectateur, et moi je trouvais ça sympa. Donc première épreuve autour des abats, avec Adrien qui s'était un peu démarqué par la cuisson de ces parties-là des animaux lors de son passage dans Top Chef il y a 2 ans, et qui là avait choisi 4 éléments différents: la langue de porc, je crois, le foie de veau, le cœur de bœuf et le bonnet de veau. Avec au hasard donc les 4 brigades reformées, avec une brigade violette tout à fait inédite composée de Sébastien et Wilfried. On nous balance un peu au début d'émission que Lilian est partie, on reviendra dessus, je vous l'ai dit, en fin d'émission. Et donc voilà, une première épreuve qui déjà, moi je trouve, me donne un peu envie, parce qu'on voit de la cuisine un peu sympa. On va pouvoir faire comme toujours, on les fait dans l'ordre. On commence avec les rouges, Thibaut et Louise, donc, qui eux ont la langue, qui ont l'air très contents, Seb, de tirer la langue parce qu'ils la connaissent un peu, c'était pas ça l'histoire?
Voilà, visiblement, donc Louise avait l'habitude de la cuisiner dans son restaurant. Pareil pour Thibaut, donc ils se sont sentis très à l'aise sur le sujet. Donc ils sont partis sur leur terre-mer, langue de porc, sauce ravigote, bouillon d'algues à l'ail. Et le chef les a mis en garde, attention à l'huître.
Ouais.
Parce qu'elle avait peur que ça soit trop salé, donc ils sont rebondis avec la fameuse anguille fumée. Il fallait écouler le stock que notre ami, dont j'ai oublié le nom,
Ambroise
avait dû commander auprès de la prod, donc il fallait la faire passer. Donc ils sont partis sur ce sujet-là.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anguilles cette saison. C'est la saison de l'anguille et du lard colonnata. Hein. Il y avait la saison des pickles l'an dernier. Il y avait la saison de, je sais plus ce que c'était, l'année d'Adrien. Mais là, ouf.
Les crowesquis.
Oui, les crowesquis, c'est vrai. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme anguille et comme lard colonnata? C'est bien, on découvre des nouvelles choses chaque année. C'est le but aussi. Un plutôt bon boulot, ils finissent alors deuxième, parce qu'à la fin Adrien dit qu'il hésite entre deux, et une association de candidats qui marche pas trop mal, Thibaut et Louise, Marco.
Ouais, franchement ils avaient une vraie vibe entre deux là. Déjà les deux étaient trop contents de tirer ce plat là, les deux ça leur parlait, ils avaient pas peur du truc et tout. Je pense presque à la limite qu'ils étaient trop confortables, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qu'ils connaissaient là, la sauce ravigote que Louise avait l'air de faire. Alors Louise, j'ai l'impression que 9 plats sur 10, c'est quand même un souvenir, un hommage à sa mère, à sa tante, à sa grand-mère, à son resto, à son pays. Donc je sais pas s'ils ont été un peu trop dans la facilité. Après, bon, quand tu finis deuxième et que t'es en ballotage pour la victoire, on peut dire que c'est juste du pas de chance. Mais ouais, il y avait une bonne ambiance entre les deux. C'était vraiment sympa à voir. Et même de manière plus globale, entre tous les candidats, on dirait qu'il y a vraiment de plus en plus d'atomes crochus et qui se lâchent un peu plus. Tu vois, à se faire des blagues, des boutades, etc. C'est vraiment sympa à voir.
Bah après 9 semaines pour la plupart qu'on bossait ensemble depuis le début, heureusement que ça commence à s'accrocher un peu positivement. La langue, Seb, est-ce que tu vas pouvoir nous dire sur les quatre abats là, alors moi le foie, je crois qu'on se l'est dit avant, le foie c'est peut-être celui qui est le plus répandu, mais les autres, est-ce que tu les cuisines de temps en temps, est-ce que tu sais un peu quel goût ça a, qu'est-ce que tu connais de ces éléments là?
Non, à part le foie, franchement voilà, tu sais que quand tu es fatigué, tu manges une tranche de foie, voilà, quand tu te dis c'est fort en fer, tu le sens quand tu le manges, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Tu es un peu pareil au niveau du cœur. Après les deux autres, honnêtement, non. Le bonnet de veau, ouais, je l'ai senti. Franchement, c'est rien que l'odeur, ça te rebute.
Ah ouais.
J'ai pas pu. Et non, la langue, vraiment pour l'aspect de la langue, j'ai jamais essayé, mais ça me tente pas.
J'avoue que le bonnet, je connaissais même pas. Quand il te présente ça, qu'est-ce qu'elle a dit ma femme? Elle a dit, on dirait un vieux tissu ou je sais pas quoi. C'est vrai que un vieux rideau,
ça puait à travers la télé là. Ouais. Ça sentait d'ici quoi.
Je suis assez d'accord.
C'est quand même les intestins, donc forcément, c'est ce qui entoure les intestins, l'estomac, donc forcément.
C'est le deuxième pré-estomac des ruminants, d'après SoFoot, qui, vous le savez, est ma source pour tout ce qui est les résumés de Top Chef. Donc, ouais, effectivement, c'est sûr que ça donne pas très envie. C'est pas de bol, en plus, c'est l'équipe, on peut parler d'eux, du coup, Sébastien et Wilfried, de la nouvelle brigade violette, parce qu'on le rappelle, Sébastien a été abandonné par Philippe Etchebest la semaine dernière. dernière, on dirait que la suite lui donne raison. Toujours est-il que Sébastien Wilfried, voilà, ils ont tout de suite dit, ouais, nous on n'aime pas du tout, on connaît pas du tout ces trucs-là, là où les autres semblaient un peu à l'aise, notamment les Bleus sur le cœur. Donc Sébastien Wilfried, Seb, qui font le parti pris, aïe, je l'ai dit, de faire un dessert. C'est pas ce qu'on a vu de plus what the fuck comme dessert cette saison, mais c'est quand même audacieux, non?
Ah, complètement, ouais. Parce que voilà, le bonnet de veau, comme on l'a dit, déjà, t'as l'odeur. Puis en plus, t'as l'aspect, c'est quand même gélatineux. Donc, il faut pas se rater. Puis si tu connais pas, ben, autant partir sur le dessert, où ils ont essayé d'apporter pas mal de sucre, un peu des saveurs acidulées, comme la coco, les agrumes, pour essayer d'enlever l'odeur et pour la masquer. Et après, ils ont intégré leur julienne de rhubarbe et mangue verte pour la fraîcheur, la légèreté. Moi, je te le dis comme ça. Enfin, honnêtement, tu m'aurais dit, ouais, c'est du bonnet. Au début, je t'aurais dit non. Après, à tester, comme ça a été le cas lors de l'émission, je pense que ça devait être sympa.
Ouais, c'est pas ceux qui ont eu le moins de... Enfin, c'est pas ceux qui ont été le plus, on va dire... méfiant les goûteurs du bonnet de veau, on reparlera du cœur tout à l'heure, mais cette idée de faire un trompe-l'œil, c'est pas idiot, parce que effectivement, tu portes l'attention sur autre chose, tu fais un trompe-l'œil sucré de spaghetti carbonara qui sont en fait du bonnet de veau, ça va chercher loin, Marco, c'est plutôt une bonne idée.
Ouais. Après je me rends compte que personnellement, je me retrouve de plus en plus blasé sur, tu vois, ces genres de trucs-là. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on dit, ah bah tiens, en coupant lamelle, et enfin, tu vois, dès que t'as un truc un peu mou, un peu flexible comme ça, on le coupe en lamelle et ça fait trompe-l'œil de carbonara. Mais parce que, tu vois, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu 4, 5 ou 6 fois dans Top Chef, mais après, en soi, les possibilités sont pas infinies. Et ouais, ça avait l'air d'être une bonne idée. Et puis, en plus, de vraiment partir sur un dessert. Je pense que ça pouvait marcher quand tu penses à Adrien Cachot.
C'est ça.
Tu te dis d'avoir fait un truc qui sort complètement de la norme. Ça peut taper dans le mille avec lui, de partir sur un dessert quand tous les autres sont sur un plat. C'est une manière de te démarquer. Après, je pense que, enfin, on l'a déjà dit, mais ils avaient vraiment fort à faire parce qu'il fallait vraiment, en fait, pour moi, c'était presque mission impossible si tu partais du principe qu'il fallait cacher, en fait, le produit tout ouais. en faisant un plat autour de ce produit-là. Donc, mm-hmm. ils partaient vraiment perdants et ils ont pas réussi à gagner, quoi.
On est d'accord. Le coup de dire Adrien, ça peut lui plaire, c'est un peu what the fuck, c'était une bonne idée. D'autant que Paul Perret, évidemment, espérait remporter. Ouh, j'ai pas fait exprès. Espérait remporter cette épreuve pour son ancien poulain. Bon, en l'occurrence, eux, c'est peut-être celui sur lequel Adrien a émis le plus de réserve. Adrien, que j'ai trouvé d'ailleurs bon dans l'exercice de la dégustation et pas trop complaisant non plus, donc c'était plutôt chouette, on va pouvoir en reparler tout à l'heure. On va revenir dans l'ordre du coup, Arnaud et Lucie, le foie, là, ils avaient l'air plutôt chaud, quand ça sort, Lucie, c'est vrai, on le voit, est quand même en bonne progression, Arnaud aussi depuis plusieurs émissions, on nous refait toute une tirade sur la semaine dernière, elle n'allait pas bien, mais maintenant ça va beaucoup mieux, bon... En l'occurrence, ils décident de faire le foie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des tranches de foie snackées dans du chou pak choy. Un petit condiment gingembre pomme verte avec de l'avocat, évidemment. Noisettes et capres frites. L'avocat qui est le nouveau meilleur ami de Lucie. Et ils font un bonbon, comme ils appellent ça. Petit problème, simplement, Seb, apparemment, ça manquait d'acidité. Et Adrien, étant ce qu'il est comme cuisinier, un truc what the fuck acide à fond, ça lui aurait pas déplu, apparemment.
Ouais, c'est ça. En plus, déjà, tu as la première remontrance du chef Viel qui goûte leur petit condiment. Eux, ils étaient persuadés que ça allait marcher et d'entrée, il les refroidit. Il dit non, ça manque de consistance.
C'est vrai que c'est rare, ça, le chef qui reprend comme ça.
Ouais, c'est rare depuis le début de changement de format au niveau de Top Chef, depuis qu'on a les brigades. Mais alors, comme ça, c'est vrai que bon, il a été limite froid, quoi. Donc, tu vois, ils ont été un petit peu surpris. Bon, ils se sont bien repris, donc, avec l'avocat pour essayer de récupérer un petit peu de consistance au niveau de la texture et la noisette pour la mâche. Mais c'est vrai que, ouais, ça manquait d'acidité. Tu as compris que ça allait pas passer, là.
Marco, l'avocat, et Lucie, un petit mot?
J'avais le poing serré devant ma télé là. mais d'un autre côté, je me disais, j'ai bien eu raison la semaine dernière dans le podcast. de dire que c'était un peu bullshit ces arguments de je fais ma croûte de compost en opposition avec l'avocat qui est quelque chose qui demande beaucoup d'eau et il faut porter un message écologique. Et la semaine d'après, en plus, elle est trop contente. Elle est trop contente de me dire eh ouais, l'avocat, ça m'a porté chance, alors je pars sur l'avocat et tout. J'étais tendu. Voilà. Après, sur le plat, moi, je suis pas trop fan du. J'étais pas trop fan du visuel, un peu monochrome, un peu tout vert. T'as l'impression que tu vas plus manger des algues qu'un plat de viande, quoi. Voilà. Donc, bon, ils ont pas gagné. Pas grand chose à dire d'autre. Moi, ça m'emballait pas trop ce plat-là.
Je viens de regarder le petit bruit que vous avez entendu, chers auditeurs et auditrices. C'est moi qui essaye de chercher sur la carte du resto de Lucie s'il y a de l'avocat. Et il n'y en a pas. Bon, ça au moins, on ne peut pas le lui ôter. Et enfin, nos gagnants du jour, Pascal et Michael, les deux très en vue. Hein. On parlait de remonter tout à l'heure. Michael est en train, lui aussi, de son côté, de faire un gros parcours. Le cœur de bœuf, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute sur l'animal, mais du cœur, en tout cas, ça c'est sûr. Pareil, ils ont l'air sûrs d'eux, Marco, au moment où ils le sortent. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent en faire.
Ouais, à ceci près que sur la cuisson quand même, ils ont pris un gros risque de faire basse température alors qu'ils n'avaient pas le temps. Et quand ils l'ont sorti, en fait, le truc n'était pas cuit du tout. Non. Donc après, je sais pas si, enfin, ils ont sauvé la mise en faisant cette petite cuisson barbecue là. Je sais pas si du coup le fait de l'avoir pré-cuit avant à basse température, ça a fait un changement ou pas, puisque vraiment Adrien Cachot disait disait que la cuisson était parfaite. Mais après, autour de ça, moi je t'avoue que le chou-fleur avec la sauce béarnaise à langue de sèche par-dessus, on aurait vraiment dit du chou-fleur avec une pâte de du goudron dessus qui a été coulé, tu vois. C'était pas très ragoûtant. J'ai pas trop compris l'idée, tu vois, pourquoi mettre de langue de sèche du coup, pour le coup, là-dessus, pour teindre en noir plutôt. C'est pas. Enfin, j'ai pas à manger des aliments noirs, c'est pas quelque chose qu'on fait trop habituellement, donc c'était peut-être encore une fois le parti pris de vouloir un peu choquer Adrien, mais un beau plat.
Ouais, moi je te trouve dur. Moi j'ai trouvé ça plutôt appétissant parce que je savais ce que c'était aussi. Le comment ça s'appelle la sauce, la béarnaise ça sur le chou-fleur. Ouais, c'est du chou-fleur, hein, je suis pas fou. Ouais, ça. Ouais, moi ça me donnait vraiment super envie. J'aime beaucoup ça. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Et des quatre qu'on a vus, le foie, je connais un peu, le cœur pas du tout. Mais si c'est comme ils disent et comme disaient les dégustateurs. Les gens qui dégustaient à l'aveugle, ça ressemble un peu à la viande qu'on connaît de manière générale. Ouais, moi, ce plat-là, je le trouve, il avait l'air super bon. Et moi, je sais pas, le visuel me donnait plutôt envie.
Non, je suis plutôt d'accord. À part cette béarnaise noire, mais la viande avait l'air vraiment bonne, là, tu vois, avec ces petits croisillons. Ça ressemblait vraiment à la viande que tu peux avoir sur les barbecues coréens, là, les petits, petits morceaux de viande que tu mets comme ça, là, tu retournes, c'est cuit en 30 secondes et tu le manges. Et je pense que c'était un peu l'idée du plat et ouais, ça, c'était réussi.
Seb, toi, il t'a plu aussi ce plat?
Ouais, beaucoup, parce que ben voilà, comme vous l'avez dit, au niveau de la viande, honnêtement, tu sais pas que c'est du cœur. Déjà, le cœur, c'est pas là-bas qu'il y a le plus de goût, qui est pas vraiment marqué. Mais en plus, il te sort une viande, franchement, ça peut être n'importe quelle pièce de bœuf, quoi, que tu as passé au barbecue, qui est bien quadrillé. Et après, pour rebondir sur ce qu'a dit Marco, oui, le fait d'avoir joué sur la basse température, ben, du coup, t'as ta viande qui est moelleuse à cœur. Et le coup de passer au barbecue, ben, du coup, t'as cette espèce de. Ça, c'est un petit peu ferré. Sur le dessus, et ça t'apporte une petite caramélisation aussi qui est pas déconnante.
Est-ce que tu sais peut-être, ou tu sais pas, mais m'expliquer pourquoi la cuisson basse température aurait pu marcher. Enfin, dans ma tête, si tu cuis basse température, ça met plus longtemps à cuire, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne?
Ouais, parce qu'en fait, basse température, donc c'est donc tu baisses en température, donc forcément tu rallonges ton temps de cuisson, mais du coup la viande elle est pas agressée. Donc elle va rapidement, parce que je crois que chaque morceau de viande, c'est pour ça qu'il met la sonde, chaque morceau de viande a sa température à cœur, et tu sais quand est-ce qu'elle est cuite, toi, si tu la veux bleue, rosée, saignante, ainsi de suite. Mais là, voilà, ils n'avaient pas le temps du tout, et d'ailleurs le chef Etchebest leur dit « Attention les gars, vous n'avez pas le temps, vous avez qu'une heure trente ». Bon, ils ont tenté, finalement c'est le barbecue qui les a sauvés, quoi.
Ouais, c'est clair. Et donc c'est eux qui l'ont emporté. On peut dire un mot sur le le barrage entre guillemets des amateurs qui goûtent, qui je le rappelle sont des gens vraiment dont dans la vie ils n'ont qu'une seule raison d'être, c'est de ne pas aimer les abats. J'insiste dessus parce que ça m'a saoulé pendant l'émission d'hier, genre vraiment on t'a répété ça en boucle, genre ça va au bout d'un moment, enfin peut-être que déjà comment tu le sais, est-ce que tu demandes vraiment aux gens est-ce que tu aimes bien les abats, c'est pour savoir, juste pour savoir, et genre derrière je sais pas, je trouvais qu'on en faisait beaucoup. Derrière, tout le monde passe. Est-ce que c'est décevant ou est-ce que c'est attendu? Parce que bah, on se doute bien que les gens veulent pas non plus forcément faire du tort à un truc qu'ils ont goûté et qui était pas si mauvais que ça. Marco, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit rajout?
Moi, je trouvais ça inutile. Déjà par le résultat, puisque tout le monde passe. Et du coup, en fait, chaque plat, tu les revois deux fois, vu qu'après tu les revois avec Adrien. Et je trouvais que ça apportait pas grand chose. Et comme toi, en fait, on nous les a un peu vendus comme étant ils n'aiment pas les abats. Sauf qu'à la fin, tu vois, quand il y en a qui commencent à se douter que c'est des abats, et ils sont pas en mode je jette l'assiette, j'ai envie de vomir, quoi.
Heureusement.
Juste, je crois que c'est des abats. C'est vrai que je suis pas trop fan d'habitude, donc même entre la promesse et le truc. Voilà. Alors peut-être qu'ils n'aimaient pas le groupe ABBA, oui. Ça c'est autre chose.
Mais ça c'est intolérable par contre, hein. Ça c'est interdit de ne pas aimer le groupe ABBA, enfin, je veux dire, c'est trop bien.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu vieux maintenant, mais c'est vrai.
Moi j'adore. Seb, fan de ABBA. Non mais toi, pareil, du coup, l'étape en plus, est-ce que justement, heureusement que tout le monde passe, parce que sinon ce serait frustrant de voir quelqu'un se faire empêcher de passer juste parce que des amateurs ont dit ouais bon j'aime pas trop.
Bah voilà, là franchement ça servait à rien parce que tout le monde est passé et au final le plat qui est passé c'est celui qui a eu le plus de critiques, on va dire entre guillemets, des groupes d'invités. Après voilà, je rejoins Marco, ça avait pas trop d'utilité, ou alors c'est eux qui auraient dû désigner le plat vainqueur. Après bon, au niveau des abats, t'avais du foie et du cœur qui sont pas super marqués, ils ont pas eu de la pince de brebis ou des trucs vraiment ignobles à cuisiner, quoi.
Ouais, qu'est-ce qu'il avait... Vous vous souvenez, Adrien, dans sa demi-finale, il avait fait un truc où il fallait cuisiner des abats et il y avait de la fraise, je crois, mais pas de la fraise, le fruit, hein. Ouais. Ça va être de la fraise FRAIZE, je sais pas, je regarde. Non, c'est une ville. Dans les Vosges. Ah, bien sûr, je le sais. En plus, c'est à côté de chez mes grands-parents. Non, mais bon, je ne sais plus. Mais voilà, effectivement, il y a sans doute des trucs plus visuellement peu ragoûtants. Le résultat, on vous l'a dit. Donc, les Bleus, Pascal et Michael, remportent l'épreuve et filent directement en semaine suivante. Tandis que les autres passent à la deuxième épreuve, comme nous. D'ailleurs, je vais mettre un jingle. Je mets pas assez de jingle. Je me rends compte qu'on va aérer plus entre l'épreuve 1 et 2. On met un petit jingle. Voilà, hop, un petit jingle, c'est parti.
Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous?
Bon, pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas.
Et j'ai senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, qui m'a juté dans la bouche.
3, 2, 1... C'est terminé.
Putain, pendant le jingle, je sais pas pourquoi j'ai le Instagram ouvert et il y a Lilian Douchet, il y a un faux compte Lilian Douchet, j'ai l'impression. Ah non, ou alors c'est son compte perso. Bref, et sa photo de profil c'est lui torse nu. Du coup, j'ai bugué. Pourquoi? Bref, revenons à nos moutons et revenons à la deuxième épreuve. Il y avait pas de moutons, mais Massimo Bottura, c'était l'épreuve que une des épreuves qu'on attendait depuis qu'on connaissait un peu le programme de cette saison. Massimo Bottura, chef italien 3 étoiles à Modène et chef comme Thibaut Spivak et Glenn Vielle, détenteur d'une étoile verte Michelin, donc très engagé contre le gâchis, engagé en faveur de l'écologie. Avec Gwendal Poulenec qui est le directeur du guide Michelin, si je dis pas de bêtises, et qui, je vais vous le dire tout de suite, est pour moi la deuxième personnalité la plus détestable du Top Chef verse derrière François-Régis Gaudry. J'avais l'impression d'écouter un homme politique me sortir son programme avec des phrases à rallonge, avec des mots pour faire genre je parle bien. Je sais pas, il y avait tout qui m'énervait chez lui. Donc voilà, c'était heureusement Massimo était à côté et avec son entrain et sa joie de vivre. Et lui vraiment, il m'a conquis. Je ne le connaissais pas. Marco, est-ce que tu connaissais Massimo et qu'en as-tu pensé?
Je connaissais pas Massimo. Je suis d'accord avec toi que Gwendal Poulenec. En fait, je comprends même pas pourquoi il était là. Enfin, C'était pas nécessaire.
Pour l'étoile verte Michelin, je pense que c'est ça l'explication. Hein.
Ah oui, ok. J'avais pas fait le rapprochement, non, mais moi je suis pas très malin aussi. Et le chef Botura, écoute, ouais, il avait. Tu vois, on dirait un petit peu un Pierre Gagnaire italien, quoi. Tu vois, il est plein de bienveillance et genre, il aime bien tous les plats, il est émerveillé et tout. Et ouais, c'était plutôt sympathique. Et après, moi, c'est surtout en fait, le thème de l'épreuve que j'ai adoré. Donc, de base, en fait, moi, j'avais envie d'éclater tous les plats. Tu sais, moi, je suis le genre de mec dans les restaurants, là, quand on te donne la corbeille de pain avant de manger, j'ai fini la corbeille de pain et après, les plats, ils arrivent parce que je mange du pain tout le temps. J'adore ça. Et du coup, tous les plats avaient l'air trop bons. Donc, ouais, c'était vraiment une super épreuve.
On est bien d'accord. Seb, qu'est-ce que toi, elle t'inspirait, cette épreuve et ce jury particulier?
Alors, sur le jury, voilà, Massimo, excellent.
Tu le connaissais, toi?
Ouais, de réputation, c'est tout. Okay. Après, pas plus que ça. Après, Gwendal, je vous rejoins, j'avais l'impression que c'était une intelligence artificielle qui parlait. Donc, bon, visiblement, quand t'es critique culinaire, donc, faut dégager ce type de personnalité. Bon, assez bizarre. Mais heureusement qu'il y avait Massimo pour contrebalancer. Et après, voilà, moi, je vais le dire direct. Hein, moi, c'est mon épreuve préférée depuis le début de la saison, quoi.
Bah, je les ai plus toutes en tête, mais je suis pas loin d'être comme toi. En tout cas, elle fait très largement partie des favorites. Et ouais, moi j'adore le pain et je trouve bien que chaque année on fasse une épreuve où on met l'accent sur l'écologie et sur la préservation de la planète. Ça mange pas de pain, excusez-moi. Et voilà, ça fait pas de mal, disons, de remettre un peu une couche là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu as une émission culinaire la plus suivie en France, tu te dois aussi de faire passer ces messages-là. Donc, très, très bien. Et donc, l'épreuve, cuisiner du pain rassis pour en faire un bon plat. On va les prendre dans l'ordre dans lequel ils nous ont été présentés. Le premier, c'est Wilfried, qui a une très bonne idée, qui malheureusement n'est pas aussi bien réalisée que ce qu'il aurait voulu, à savoir la côte de pain, donc faire comme une côte de bœuf mais avec du pain, donc de l'enrouler dans sa ficelle, de mettre du jus, une belle béarnaise. Voilà, moi je suis comme toi Marco, là rien que d'y penser, ça me donne trop faim alors que j'ai bien mangé ce midi, j'aurais fracassé le truc. Simplement, ça manque de sauce, et c'est vrai que dans la côte de bœuf, ce qui est bon aussi, c'est la sauce. Seb, bah voilà, on ne peut pas laisser passer une telle erreur, entre guillemets.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu as très vite compris. En fait, Massimo, voilà, il a tout aimé. Il y a eu deux, trois petites remarques. Donc, tu te dis, eux, c'est bon, c'est mort. C'est pas passé. Après, l'idée était géniale quand même, hein, traiter le pain. Parce que voilà, ça, pour moi, ça, c'est top chef. Ouais. Tu vois, ça, c'est une épreuve. Tu vois, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de cuisson extraordinaire dans de la lave, dans des cailloux, dans tout ce que tu veux. Voilà, on est dans un concours de cuisine, pas dans un show culinaire. Donc voilà, tu as l'élément de base, en plus surtout pour la France, le pain, on est quand même, on est connu mondialement pour être des haineux et pour aimer le pain, donc là tu pouvais pas mieux tomber, quoi.
On reparlera après du chef Botura aussi qui a des projets intéressants. Deuxième plat, pardon. Oui, donc Wilfried, voilà, ça avait l'air très très bon, mais malheureusement, il ne passe pas directement en semaine suivante parce que ce petit remarque, on sent tout de suite que malheureusement il y aura mieux. Louise,
mais à noter que, ça fait plusieurs fois que Wilfried, il a du mal avec. Le dosage des sauces, tu vois, soit la dernière fois sa sauce au piment, il en a mis trop dans le pichet et du coup ça a emporté sur tout le reste. Là cette fois il y a pas assez de sauce, donc il a vraiment du mal à trouver cet équilibre. Alors que à côté de ça, franchement, moi cette idée, je trouve que c'est une idée de génie, tu vois. C'est une idée, on parlait d'Adrien Cachot, mais un truc qu'aurait pu faire Adrien Cachot quand il parle de Pity Bab, tu vois. Pour moi c'est au même niveau là, de te dire du pain, je vais faire une côte de pain, tu vois. Enfin, c'était vraiment, j'ai trouvé l'idée géniale. C'était vraiment un ovni en fait, le truc, et je savais pas vraiment si ça allait être dégueulasse ou hyper bon, mais ça avait vraiment l'air hyper bon. Puis même le visuel, il fonctionne hyper bien. On dirait vraiment une côte de bœuf.
Ouais.
Mais ouais, c'est dommage en fait qu'il se plante à chaque fois sur ce truc-là, qui finalement, en fait, on pourrait se dire c'est un détail. C'est juste parce que ta sauce, tu l'as déjà faite. C'est juste qu'il faut en mettre plus ou moins dans le plat, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, tu vois, typiquement, quand tu fais une bonne pièce de viande, à la fin, la sauce, tu vas toujours saucer avec le pain. Donc forcément, du pain avec de la sauce. Enfin, voilà. Si tu me sers ça tous les jours, je le mange tous les jours, il n'y a pas de problème, je pense. Louise, donc, qui a elle aussi une idée qui est intéressante, en l'occurrence, de vouloir faire une pâte, enfin, une pâte comme les pâtes, quoi, mais avec du pain à la place de la farine, si je dis pas de bêtises, et qui, en fait, se rend compte assez vite que la machine pour faire les pâtes ne rend pas ce qu'elle veut derrière et que ça se casse trop, donc elle décide d'en faire des ravioles ouvertes. Qui est plutôt une bonne idée. Comme par hasard, elle te met une petite feuille verte, un petit truc rouge, un petit truc blanc, et hop, ça te fait le drapeau italien. Merci. Bon, l'idée était bonne, mais là, encore comme sur le premier plat, Seb, enfin sur le plat de Wilfried, la réalisation, malheureusement, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle espérait.
Ben voilà, c'est ça. Hein. C'est que bon, si tu fais de la chapelure, c'est pas de la farine, hein. Même si tu la ça marchera pas, hein. Tu as les farines, pourquoi tu en as différentes chips, t'as de la T45, T55, etc. Et ben, faut que tu rajoutes plus ou moins d'eau, plus ou moins de liquide, parce qu'elles absorbent plus ou moins. Et la chapelure de pain, ben, c'est pas de la farine. Donc forcément, ça allait pas fonctionner, son truc. À la rigueur, elle aurait mélangé avec de la farine. Pourquoi pas? Un petit peu toasté, tu le rajoutes, ça aurait pu marcher. Bon, ben, là, dans ce cas-là, ça a pas marché. Donc forcément, elle a dû le faire un peu plus épais, je pense, pour qu'à la cuisson, ça puisse se tenir. Bon, elle a rebondi sur une raviole. L'idée était pas mal. Après, il y avait quand même beaucoup mieux qu'elle soit pas passée, c'est logique.
Le plat de Louise, un avis dessus?
Non, mais vous avez tout dit. Vous ne m'avez laissé que les miettes.
Oui. Hélène Darroze sort de ce corps.
Non, moi pour le coup, j'étais pas trop fan de crème de levure. Franchement, la levure boulangère, ça a une odeur quand même assez puissante et du coup, je m'imaginais pas trop avoir en bouche de la crème de levure. Donc juste sur ça, son plat me disait un peu moins que les autres.
Moi, le seul truc que j'ai relevé, c'est les croûtes de fromage et du coup, j'ai pensé aux visiteurs tout de suite. Voilà, c'est tout. Le plat de Lucie qui nous sort la carte de plat réconfortant familial pour mon fils, je sais pas quoi, qu'elle avait déjà fait d'ailleurs au moment de l'épreuve du poulet avec les petites boulettes de poulet là. Et ben ça marche encore une fois. Donc là, elle nous fait un pudding donc un pain infusé au lait et la confiture de lait, qui est un truc qu'elle fait apparemment déjà, qu'elle sert en plus. Avec le plat dans le pain, c'est vrai que pour le coup j'ai trouvé ça plutôt visuel, c'était intéressant. Et derrière, d'après SoFoot, hein, moi je ne connais pas, c'est un plat qui existerait déjà, un plat égyptien qui s'appelle le Oumali, un peu pareil mais avec des fruits secs. Donc voilà, si jamais cherchez OUM plus loin ALI, qui signifie la maman d'Ali d'ailleurs en arabe, ce serait le même genre de plat. Ça a bien marché, ça a même très bien marché puisque c'est un coup de cœur pour Massimo Bottura. Je l'ai pas forcément vu venir celui-là, Marco, j'avoue.
Non, moi non plus. Après, je pense que j'ai un bien envers Lucie, parce que honnêtement, bon, au-delà de ce qu'on disait, la candidate, etc., c'est pas trop mon univers culinaire, tu vois. Son plat avait vraiment l'air hyper gourmand. Je sais juste que moi, ces trucs-là, là, infusé au lait et tout, c'est pas... Enfin, tu vois, moi, le pain, c'est vraiment avec de la sauce salée, là, c'est... ou de la sauce tomate, c'est pas trop... T'as trop un truc avec du lait, machin, pour les enfants, c'est bon là. On est... Mais ouais, ça avait l'air hyper généreux et bravo à elle de se qualifier une fois de plus sans avoir trop nécessité l'aide de Glenville pour une fois.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Seb, est-ce que toi tu es resté un grand enfant? Est-ce que toi le lait et le pain ça te parle?
Ouais, là en plus son plat, voilà, comme il lui a dit, il avait des frissons et tout parce que bon, elle a été intelligente. Elle a mis de la confiture de lait qui c'est une tuerie absolue. Tu avais un petit peu de chocolat, le fruit de la passion qui rapporte le peps. Après, le seul bémol, je vais dire, c'est voilà, moi pour moi, le plat dans le pain, tu fais un truc anti-gaspi, tu ouvres pas ta miche de pain pour poser ton bol.
Oui,
alors regarde, tu prends ton bol, tu mets tes trois chips de pain sur le dessus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, elle a su toucher la corde sensible, c'est pour ça que c'est passé aussi.
Toutes les mamans du monde devraient connaître cette recette, a dit le chef Bottura. C'est un joli compliment. Donc, elle avait l'air émue, c'était mérité pour elle, effectivement, sur cette épreuve-là. Sébastien, qui s'est un peu pris la tête dans son gaufrier à vouloir faire une gaufre de pain avec une petite infusion de lait, une petite poêlée de champignons, yaourt de pain, jus de volaille infusé au pain, tout au pain. Et en fait, là, pétage de câble, il n'arrive pas à faire cuire son... sa gaufre dans le gaufrier. Une fois, deux fois, ça marche pas, il laisse tomber, il va faire autre chose. Il se dit, bon, tant pis, je vais partir sur autre chose. Et c'est peut-être la première fois que... Enfin, j'avais pas souvenir qu'il l'avait vraiment fait comme ça avant, mais où Paul Perret secoue son candidat un peu, pas vénère, mais où lui met vraiment des coups de pied au cul. Il avait repris Sarah, qui souvent sortait un peu les sentiers battus. Là, je sais pas, j'ai trouvé... Bah, je trouve ça bien. Ça a bien marché, il a bien fait, parce que derrière, Sébastien arrive à faire sa gaufre. Seb, qu'est-ce que tu as pensé de Sébastien sur cette épreuve et de son remontage de bretelles, on va dire, par Paul Perret?
Ben voilà, hein, il s'en est pas sorti. Parce que là, bon, jusqu'à présent, il était chez les Bleus qui roulent sur tout le monde depuis 10 semaines, 9 semaines, je sais plus où on en est. Voilà, le chef qui le prend, qui essaie de l'encourager, mais vas-y, continue, c'est une bonne idée. Et vraiment, c'était vraiment une bonne idée pour le coup. Donc après, il trouve la solution, il rectifie, sa pâte était un petit peu moins liquide, du coup, ça marche dans le gaufrier. Voilà, son plat était sympa, mais bon, sans plus.
Sachant que, moi, j'étais... alors, je regarde... Je savais pas, mais les chefs, ils ont le droit d'aider comme ça, de prendre les trucs et tout, parce que c'est ce qu'a l'air de... Et même hier, sur Twitter, je voyais plein de gens dire il est pas trop censé le faire. Bon, ça va, il a juste nettoyé un peu le gaufrier. Marco, c'est pas non plus...
Ouais, non, pour moi, t'as pas franchi la ligne. Tu vois, c'est pas comme s'il faisait une préparation, là. Il fait un peu de commis, il nettoie les trucs. C'est déjà arrivé, tu vois, je sais pas, moi, quand des candidats, par exemple, avaient tout renversé ou des trucs comme ça, que le chef dise « Allez, allez, ressaisis-toi et moi, je te nettoie le plan de travail. » Donc, ouais, non, il faut pas... Faut pas s'offusquer pour ça.
Donc, Seb, qui s'en sort pas sans les Bleus, est-ce qu'on commencerait à être un peu inquiet pour lui, Marco?
Ouais, moi, je suis un peu... C'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois, enfin même plusieurs semaines qu'il n'a pas sorti un super plat et qu'à chaque fois il y a un petit, ouais, des petits bugs techniques alors que c'est quand même censé être un peu sa spécialité. Là, sur le coup, franchement, je pense qu'il part visiblement sur un truc qu'il ne maîtrise pas trop. Et en fait, pour moi, à l'univers du pain, tu peux tellement faire de choses différentes que c'est dommage de s'être mis en tête de faire cette gaufre si finalement il n'était pas sûr. Et surtout que... Après, honnêtement, une gaufre, c'est pas non plus hyper gastronomique, tu vois, même si c'est une gaufre faite de pain et que c'est un bel exploit technique, mais c'est pas un truc très très fin, tu vois, en bouche, une gaufre, alors ouais, c'était pas une bonne idée, et ça fait plusieurs fois qu'il inquiète, et du coup, on commence à se dire que le chef Etchebest, il a peut-être fait le bon choix.
Eh ben ouais, c'est ce que j'allais conclure, c'est comme ça que j'allais conclure, c'est mieux que, bah voilà, peut-être que le chef Etchebest avait senti que Seb était un peu en train de lâcher, et que, là, au contraire, Pascal et Mickaël montaient en puissance, et donc il y croit pour aller au bout. On continue avec Thibaut. Thibaut qui fait un joli plat, donc un pain brioché, rôti au beurre, avec du jus de pain, pommes de pain, sans A, crème de pain réduite, pommes crues et cuites. La chef d'Arose le met en garde 12 fois à peu près sur le fait qu'il faut pas que ce soit un dessert. Ça a pas trop l'air d'être un dessert, ça a pas trop l'air d'être un plat qui secoue non plus le jury, c'est bon, mais sans plus, Seb.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, tu vois, son assiette, elle est magnifique. Ouais. Je suis sûr que c'est excellent. En plus, il te dit « Ouais, ça y est, j'ai compris comment ça marche. » Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris, en fait. Tu vois, en fait, il n'a pas déclenché le coup de cœur. C'est le truc, voilà, qui est hyper scolaire, qui est magnifique, qui a l'air super bon et tout. Mais voilà, tu n'as pas ce supplément d'âme. Il va se faire dresser les poils sur les avant-bras. Voilà, qui va pousser le chef à lâcher un mamami en pleine émission.
Ouais, c'est voilà, malheureusement.
Ouais, malheureusement, voilà, j'ai l'impression quoi, qu'il faut qu'il se lâche encore un petit peu plus et qu'il sorte des sentiers battus pour franchir ce pas, quoi.
Marco, bon, bah, alors, Thibaut, on va en reparler juste après aussi, mais ouais, comment ça se fait que ce gars-là, qui avait l'air quand même hyper bon, hyper sûr, qui a son resto, tout ce que tu veux, machin et tout, qui là, depuis une semaine, enfin la semaine dernière, allait beaucoup mieux, avait l'air d'être vraiment rentré dedans, en fait, non, toujours pas. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah ouais, je sais pas trop. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il fait des bons plats, comment dire, des bons plats de restaurant, mais pas de concours, tu vois. Par exemple, là, moi, comparé à toutes les autres choses qu'on voyait, tu vois, pas moi, j'ai encore la croûte de pain en tête. La côte de pain en tête. Mmh. Là, moi, je trouvais que c'était quand même très académique, son petit truc, tu vois, qui faisait un petit pavé, un petit pavé avec à base de pain et tout. Et je pense vraiment que c'était très bon, mais encore une fois, c'était, ouais, bah, c'est comme Seb le disait, c'était pas, c'était pas waouh. Et du coup, ouais, il a peut-être pas encore compris que le but, c'est vraiment de sortir des sentiers battus.
Et enfin, le dernier, lui, il a compris, c'est Arnaud. Lui, son plat, c'est ce qu'il appelle une deuxième vie au pain rassis, une soupe de parmesan, pain rassis, un bouillon de champignons, des croutons, de la ciboulette, du vinaigre. Contrairement aux autres, il met pas du pain partout. Et ça, j'ai trouvé ça cool aussi. C'est que c'est pas croûte de pain, réduction de pain, pain, lait au pain, vin au pain, enfin, que du pain. Non, là, il a mis le pain dans un plat, dans un vrai plat où il a mis le pain en avant avec plein de bonnes choses autour. Et c'est, je trouve ça du coup mérité qu'il soit l'autre qualifié de cette épreuve avec Lucie. Les deux oranges d'ailleurs, hein, voilà, qu'on n'avait pas forcément vu aussi fort avant, mais les deux oranges qui se qualifient et Glenville, dont les choix commencent à payer. Enfin, les cinquième et sixième choix. Et ben voilà, Seb, Arnaud, attention, il commence à prendre du poil de la bête.
C'est ça, c'est les 3-4 dernières émissions, tu vois que ça commence doucement, ça gagne la gare des restos, ça va faire un petit coup de cœur par-ci, ça fait, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a toujours, voilà, c'est le plat de son enfance qui est revisité, et là, il a encore vu juste, voilà, il a... Le chef l'a mis en garde, il dit il faut que tu cherches la gourmandise et l'exception, il manquait quelque chose, un twist, il va chercher des anchois, de la noisette, pour apporter un peu de croquant, un peu de salinité, donc du coup ce petit côté amer que peut avoir l'anchois, c'est un truc, voilà, même si je suis pas fan de parmesan, j'aurais bien tapé dans sa soupe.
Quoi. Ouais, pareil, et puis voilà, c'est un plat aussi qui est un peu différent des autres, bon, Lucie elle a fait un dessert, lui il a fait une soupe, et finalement c'est peut-être ceux qui se sont le plus démarqués, Marco.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est vraiment correct ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il n'a pas fait comme les autres qui tombent dans le piège Top Chef de faire l'ingrédient en 14 façons. Lui, il a vraiment un plat qui est construit. Et voilà, et tout est orchestré à la baguette.
Oh.
Bon, promis, j'arrête après.
Non, vas-y.
Et il nous fait un vrai beau plat. Il monte vraiment en puissance. Et ouais, franchement, rien à dire, bravo Arnaud.
Le résultat, donc Arnaud et Lucie qui passent tous les deux, on l'a dit, la team orange qui est sauvée entièrement. Et donc, Paul Perret et Hélène Darroze doivent envoyer chacun un candidat en dernière chance. Paul Perret envoie Sébastien, Hélène Darroze envoie Thibaut. L'épreuve, c'est autour de la courgette. Donc, voilà, encore un. C'est rarement très élaboré, mais courgette en une heure. Une épreuve qui est assez serrée. Les deux font pas. Il y a pas un coup de cœur qui se démarque tout de suite. Il y a pas de coup de cœur du coup d'ailleurs. Et en plus, les chefs sont pas complètement d'accord au moment de la dégustation, notamment Thibaut qui fait sa gelée verte, son espèce de
nénuphar.
Voilà, nénuphar. Merci, mais je cherchais le rond, le cercle. Voilà, le cercle de gelée verte qui pose par dessus. Bon, Philippe Etchebest trouve ça trop épais. Après, il trouve que le canenoni de Seb est pas très bien taillé. Et puis, j'adore parce que derrière Perret qui lui dit, mais ça va, tout le monde n'est pas meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, et donc il y a dû avoir débat. Lequel vous préfériez comme plat, messieurs Marco?
Moi, plutôt Team Sébastien, sur le coup.
Je pense que moi aussi, toi, Seb.
Ouais, au visuel, le cannelloni. Ouais. Pour moi aussi, ouais. Le nénuphar était trop épais. Tu vois, la rigueur, il aurait fait à peine, tu vois, genre un léger voile, tu sais, translucide que tu voyais en dessous. Je pense qu'il aurait marqué un petit peu plus de points.
Est-ce que, sur moi, tu vois, les espèces de sauces un peu perlées qui font de temps en temps, moi, j'aurais limite trouvé ça plus joli que le gros nénuphar posé dessus comme ça. Bon. Mais j'aurais été bien mal de dire qui passait. En l'occurrence, c'est Seb qui passe. Et donc, Thibaut qui est éliminé. Et donc, messieurs, elle est de retour. La malédiction du Power Ranking micro-ondes, messieurs, dames. Le premier de notre classement qui a été éliminé. Bon, après voilà, le classement, ça fait quelques semaines qu'on dit qu'on sait pas trop qui est où parce qu'on a du mal à les distinguer. Mais voilà, le fait est que il était premier, il était éliminé, c'est le deuxième cette saison. Bon, surprise, pas tant que ça parce que encore une fois, on était en garde sur le fait que Thibaut, il arrivait pas trop à décoller et du coup, voilà, Marco, à force de pas décoller, il reste à terre.
Ouais, complètement. Complètement, c'est vrai que Thibaut, en plus, il avait déjà fait une dernière chance une fois.
Ouais.
Je crois que c'était en même temps que Tania, quand Tania
j'ai ça aussi en tête, ouais.
Je crois. Et c'est vrai qu'il nous avait fait peur aussi sur le coup. Ouais, c'est dommage. Après, quelque chose dont franchement on n'a pas parlé, mais encore une fois, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait les quatre candidats en dernière chance, et pas que deux qui sont choisis. Parce que honnêtement, je trouve que c'est un scandale que c'était Sébastien déjà et pas Wilfried, alors que Wilfried récupère sa place due à la chance, tu vois.
Ouais.
Et du coup, en fait, c'était vraiment, pour une fois, t'avais même pas à réfléchir pour moi. Tu disais juste, écoute, montre que t'as vraiment ta place dans ce concours, et je t'envoie à la dernière chance parce que tu t'es pas qualifié aux deux épreuves d'avant. Et pareil pour Thibaut, en fait, j'ai pas envie de tomber dans le complotisme que Hélène Darroze ne va jamais sélectionner une fille parce qu'on a l'impression que les années d'avant non plus, si elle avait une fille, elle la gardait à chaque fois, quoi.
Elle envoyait tout le temps Mohamed en dernière chance. Hein,
ouais, mais j'ai pas l'impression que sur les deux premières épreuves, j'ai pas l'impression que Thibaut a fait moins bien que Louise. Hein. Elle a pas fait un truc top à l'épreuve d'avant, donc je trouvais pas ça si justifié, quoi.
Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus sympa quand il y a plus de monde, enfin que c'est plus juste. Simplement, je pense qu'il y a une. Voilà, maintenant que je commence à connaître un peu l'émission, je crois qu'il y a une contrainte aussi en termes de timing, de montrer quatre candidats et de faire déguster quatre candidats en dernière chance. Ça prend le double du temps de deux candidats et ouais. Ils n'ont plus le temps. Je pense. Hein,
regarde, t'aurais enlevé la dégustation. T'aurais enlevé la dégustation par les randoms en première épreuve, hop, tu as gagné tes 10 minutes.
Ok, d'accord. Bon, allez, on lance notre contre Top Chef l'an prochain avec nous à la baguette. Forcément, ça va être un succès. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a jamais eu trop de monde en dernière chance. Enfin, on va voir parce que la semaine prochaine, il se peut qu'on va en reparler en fin de l'émission. Il se peut qu'il y ait un truc un peu what the fuck. Mais bon, voilà, Seb, du coup, Thibaut, son départ, surpris, pas surpris.
Surpris, oui, quand même, parce qu'il était quand même dans notre quatuor de tête depuis le début. Mais comme on l'a dit, hein, sur une dernière chance, en plus la check 2, c'est qui tout double, c'est où ça passe ou ça casse. Et tu peux avoir un jour 100, c'est pas passé cette fois, et la fois d'avant, déjà, c'était limite, comme l'a dit Marco.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est vrai que face à Tania, effectivement, je me souviens, on en avait fait des caisses autour du truc, genre, oh putain, la malédiction est de retour. Donc c'est bon. Voilà, c'est tout. On fait le classement et ensuite on fera un petit point semaine prochaine s'il y a quand même quelques éléments à dire. Allez, hop, petit jingle.
Vamos, 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 vamos.
Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un piti bab.
Allez, on passe à la dégustation.
Quel plaisir de réentendre Adrien Cachot dans cette jingle. Le petit bab, évidemment, Marco en a parlé, il est dans vos jingles préférés. Le classement de la semaine 9, messieurs, on l'a fait. Alors voilà, avant tout, on est obligé de préciser que notre graphiste Ben est en vacances, on l'embrasse, on espère que tout se passe bien pour lui. Mais comme il n'avait pas pris le temps de faire le classement avant l'émission, il a dit texto, mettez comme Seb. Donc, il ne faudra pas se plaindre du classement de certains des candidats du côté de chez Ben. Trêve de plaisanterie, on a un classement qui est pas loin d'être complètement renversé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes. C'est vrai que d'habitude, une semaine sur l'autre, on essaie de garder une espèce de cohérence. Là, Raphaël Masmejean, un de nos autres consultants que vous connaissez, a annoncé la couleur en disant que lui, il repartait à zéro. J'ai essayé de pas trop le faire, mais je l'ai fait un peu quand même. Et donc, il y a des grosses différences. La première chose, déjà, on peut le dire, c'est que Arnaud n'est plus dernier. C'est Wilfried, messieurs. Et Wilfried, il est dernier chez tout le monde. Alors, est-ce que c'est suite à l'émission ou est-ce que c'est parce qu'on trouve ça abusé qu'il soit là? Il y a peut-être un peu des deux. Mais bon, Seb, là, de ce qu'on a vu hier, Wilfried ne rassure pas. Et si ça continue comme ça, on ne sera pas étonné s'il n'est plus là la semaine prochaine.
Ouais, voilà, c'est ça. Autant disait que Arnaud ne faisait pas tâche dans les 8 derniers. Bon, Wilfried, c'est un peu la pièce rapportée. Pas trop motivé par le produit en première épreuve. Dommage en deuxième. Son idée de côte de pain était géniale, mais ça passe pas. Après, il est juste sauvé par l'avis d'un chef. Peut-être qu'en dernière chance, il ne serait pas passé. Donc après, sa septième place est justifiée.
Donc ouais, je l'ai dit, c'est le dernier, septième chez tout le monde. Au-dessus, c'est Sébastien, et Marc Sébastien, c'est la dégringolade. On l'annonçait un petit peu, on le pressentait, mais là, avant-dernier, c'est dur.
C'est rude, je suis tristesse, mais après, bah, on dirait qu'il a atteint un peu un plateau alors que les autres candidats continuent à progresser et du coup, tous les autres sont en train de, ouais, de lui passer devant.
Sachant qu'il est à égalité au point avec Arnaud, mais que il a plus de moins bonne place, on va dire. Il est deux fois sixième, là où Arnaud est plutôt cinquième chez tout le monde, enfin chez les autres. Et Sébastien encore au-dessus. Mais voilà, donc comme on a essayé de pondérer un peu comme on pouvait, en tout cas Sébastien et Arnaud sont à égalité. Mais surtout, la grande nouvelle, Marco, c'est que Arnaud est avant-dernier, il est aujourd'hui cinquième.
Ouais, bah c'est la première fois qu'il n'est pas dernier, et il n'est même pas avant-dernier, il est avant-avant-dernier. Okay.
Ouais.
Mais non, oui, et ouais, il a réussi. Bah, ça récompense un peu toutes les semaines précédentes, là où on se sentait presque coupable de qu'il tombe encore dernier, alors qu'on disait qu'il y avait vraiment une évolution. Donc, c'est super pour lui que ça se. Que ça se translate un peu au classement.
Pascal, lui, est quatrième. Il arrive aux portes du podium. Pascal, qui est à peu près bien classé chez tout le monde, sauf que chez Seb, il est avant-dernier, et que comme Ben a copié, il est avant-dernier aussi, et donc il se retrouve seulement cinquième. Seb, pourquoi est-ce que tu mets Sébastien deux places au-dessus de Pascal? Oui, c'est une accusation.
Je crois encore un petit peu en Seb, même si je pense que c'est la dernière semaine. Là, ça commence... à tomber doucement, alors que tu vois, t'as des gars comme Mickaël, comme Arnaud, comme Pascal qui sont lancés à pleine vapeur. Donc, s'il sort la semaine prochaine, je serais pas surpris. Maintenant, son niveau technique pur, je le vois au-dessus d'Arnaud, Pascal et Wilfried. Donc, pour moi, il est pour ça que je l'ai mis en plein milieu de mon classement.
Ok, je ne peux rien répondre à ça, malheureusement. Au-dessus, Lucie, qui intègre le top 3 directement. Alors là, Lucie, started from the bottom, now she's here, comme disent les Anglais avec mon accent incroyable. Lucie qui trustait plutôt les bas de classement, alors milieu de classement au début, fin de classement ensuite. Et alors là, top 3 directement, Marco, c'est la consécration. Je regarde, elle est deuxième chez Ben et Seb. Elle est avant-dernière chez toi, avant-dernière chez moi, et troisième chez Raphaël. Bon, bah voilà, encore une fois, un Ben qui a flingué le classement, mais tant pis.
Ouais, moi j'arrive pas trop à défendre Lucie troisième. Si je peux comprendre que ça fait deux semaines de suite qu'elle gagne l'épreuve, donc il faut rendre hommage à ça. Moi, je reste pas trop convaincu parce que j'arrive pas à accrocher à son univers culinaire ni trop à la candidate. Mais bon, elle gagne.
Elle gagne, Seb. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est deuxième chez toi?
Bah ouais, c'est ça. Moi, je l'avais pas mis trop bas. Après, bon, voilà, il y a eu malheureusement le départ de Lydia en début d'émission, puis le départ de Thibaut. Donc, tu as deux de nos quatre candidats.
Même trois, hein, deux de nos top trois. Ils étaient,
troisième
et premier la semaine dernière.
Voilà, c'est ça. Donc, ils sont plus là. Donc, forcément, ben, ton classement se retrouve chamboulé. Et même si en termes de points ça se voit pas, en termes de niveau, je trouve qu'il n'y a pas un si grand écart entre Louise et Sébastien. Je décroche un petit peu Wilfried, mais d'une semaine sur l'autre, ça peut très vite monter et très vite descendre.
Ouais, mais de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit en faisant le classement, hein, chacun de notre côté. Là, la compétition avançant, les uns se révélant, les autres chutant, c'est difficile, en gardant une cohérence sur toute la saison, de faire un classement. Tout est très homogène. La deuxième place, elle appartient à Mickaël. Mickaël qui fait troisième et troisième, deuxième, deuxième, et même premier chez Raphaël. Marco, Mickaël... au rythme où les choses vont, on l'imagine bien aller en demi, voire en finale, non?
Ouais, en ce moment, il est lancé comme une locomotive. On dirait que c'est celui qui est vraiment le plus à l'aise dans le concours, à prendre vraiment toutes les épreuves comme des challenges, à tenter des choses. Pour l'instant, il y a tout qui passe. Là où au début, il se plantait un peu sur tout ce qui était cuisson, là, il est un peu rentré dans le rang et il nous sort des masterclass à chaque fois. C'est en train de devenir un de mes chouchous.
Ouais, moi aussi, et je sais pas si c'est le fait de mettre des lunettes de plus en plus swag, mais il y a un truc qui se passe avec Mickaël. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au début il avait toujours un peu les mêmes, et là hier il a commencé à mettre des lunettes rouges et tout. Déjà la semaine d'avant j'avais vu ces lunettes-là aussi. Enfin ouais, il y a un truc qui est en train de se dégager. Il était un peu timide au début. Et là, il est en train de devenir le bon. Alors, le cuisinier est top, mais même le candidat, je trouve, est en train de vraiment prendre de l'ampleur et de l'assurance, et ça fait plaisir à voir. Et enfin, la numéro 1, elle est numéro 1 chez tout le monde, sauf chez Raphaël, c'est Louise. Louise qui est numéro 1 chez moi, parce que je l'ai dit, j'ai pas remis complètement les compteurs à zéro, et comme c'est la seule qui restait de notre top 3. Et que Sébastien, pour moi, n'y était plus du tout. Je l'ai mise numéro 1. Il faudrait qu'on demande à Raphaël pourquoi elle est numéro 2. Mais toi, Seb, elle est numéro 1 parce que c'est la meilleure candidate aujourd'hui ou la meilleure cuisinière aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est à cette place-là chez toi?
Non, elle était numéro 2, donc forcément, le numéro 1 n'étant plus là, je la vois quand même supérieure à Mickaël, Lucie, Pascal aussi. Je pense que faut qu'elle se lâche un petit peu plus, qu'elle sorte de ce qu'elle sait faire. La candidate, elle est sympathique. Maintenant, il faut qu'on voit vraiment le vrai visage de la cuisinière pour qu'elle s'impose en grande favorite en attendant la semaine prochaine.
Marco, on disait Michael, on le sent bien, bien lancé, aller au bout. Est-ce que Louise, on est aussi rassuré avec elle?
Non, je pense qu'il y a moins d'assurance avec Louise, comme on le disait déjà. Elle peut avoir des hauts très hauts, et pour moi, elle peut avoir des hauts plus hauts que tout le monde, que tous les autres candidats restants. C'est pour ça qu'elle est ma numéro 1. Mais on sait complètement qu'elle peut avoir une ou deux épreuves où elle passe à côté. Elle est pas dedans ce jour-là, et elle va pas faire des bons plats, et elle peut sortir, quoi. Donc moi, je serais pas étonné si on a de nouveau une micro-ondes podcast curse avec Louise.
On verra. Donc en tout cas, le classement tel qu'il est au terme de cet épisode 9, je vous le redonne du bas vers le haut. Wilfried 7e, Sébastien 6e, à égalité avec Arnaud, mais Arnaud a plus de meilleures places, donc Arnaud est au-dessus. Pascal 4e, aux portes du podium, vas-y mon vieux. Lucie entre sur le 3e marche du podium, Mickaël en 2e et Louise qui redevient numéro 1. Je crois qu'elle l'a déjà été. Elle l'était déjà il y a 2 semaines, messieurs. Ouais, avant que Thibaut ne lui reprenne la place à égalité. Et là, Thibaut étant parti, c'est elle qui revient. Avant de terminer cet épisode, on va passer à un petit épisode spoiler, une petite partie spoiler, on va le dire. Donc, si vous n'avez pas vu la semaine prochaine et que vous ne voulez pas le regarder, eh bien, n'hésitez pas à couper le podcast et à revenir vendredi prochain. On vous embrasse et on vous remercie. Pour les autres, je fais semblant d'attendre 33 secondes. Pour les autres, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, on va donner le contexte. La semaine prochaine, donc c'est le fameux retour des éliminés. Il y a toujours eu, bon, on a toujours été plus ou moins d'accord avec ça. Moi, je trouve ça sympa. Il y en a qui disent que c'est abusé. Bref, la question n'est pas là. La question, c'est, on nous dit en début d'émission, Lilian, pour des raisons personnelles, a arrêté le concours, machin et tout, et est parti. Ok, donc il a choisi. Alors, peut-être pour des raisons tout à fait évidentes, on ne peut pas savoir, on ne sait pas, et ça se trouve, il ne pouvait pas faire autrement. Mais pourquoi est-ce qu'on lui donne une autre chance dans ce cas-là? On aurait dû donner une autre chance à quelqu'un qui a été éliminé du concours. Moi, ça me choque, enfin choque. Disons que ça me surprend énormément. Quand bien même j'adore Lilian, Marco, j'ai du mal à comprendre.
Ouais, moi non plus. Et surtout, bon, après, on s'attend pas à ce que la prod nous fasse nous rentre dans le détail de la vie des candidats, mais du coup, c'est hyper étrange. Surtout que ce que je vous disais avant l'émission sur Instagram, pendant l'émission, donc
Oui.
on voit que Lilian est parti, et t'as Lilian qui poste sur Instagram une petite story où il dit: ouais, salut tout le monde, merci pour vos messages de soutien, c'est vrai que j'ai quitté le concours, machin et tout. Et du coup, je me dis: ah bah ouais, bah ok, il est vraiment parti, tu vois, je vois ça pendant une pub ou quelque chose comme ça. Et à la fin de l'épisode, tu vois, retour des éliminés, Lilian qui revient. Je me dis: alors pourquoi il fait? Bon, je comprends rien ne fait sens. De toute façon, il était déjà minuit et demi dans ma tête. J'avais l'impression, là, ça finit trop tard. J'étais à moitié réveillé. J'ai même plus cherché à comprendre.
Parce que l'autre qui a une chance de revenir, c'est Thibaut. Bon, alors à la rigueur, c'est celui qui vient d'être éliminé. Ça change des saisons précédentes où on se souvient de Pierre qui, 3 ans ou presque plus tard, allez, 4 épisodes, j'exagère, mais a une chance de revenir. Là, Seb, moi, même question que pour Marco. Pourquoi Lilian, quoi?
Pourquoi Lyon? Ben, je pense qu'ils avaient besoin de deux candidats. Après, on ne connaît pas les laps de temps entre le tournage des émissions. Peut-être que bon, ben, quand il a fallu tourner l'émission, il n'était pas disponible. On ne sait pas.
C'est
hein,
pas
ben,
deux par semaine à peu près? C'est pas ce qu'ils avaient dit l'an dernier. Je crois que l'an dernier, les candidats nous disaient que
l'année dernière,
deux par semaine.
Ils étaient en bulle sanitaire l'année dernière, donc
c'est vrai.
C'était différent. Cette année, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, on ne connaît pas le contexte. Après, voilà, hein, ils ont proposé, je pense, aux deux derniers. Bon, ben là, à ce moment-là, il était disponible.
Ouais,
Bon,
mais je sais
pour
pas.
moi, ça me, ça me, ça me choque pas plus que ça, quoi.
Ok. Moi, j'avoue que bon, moi, ça m'a un peu perturbé. Et encore une fois, j'adore. Hein, je suis trop content que Lilian ait une chance, mais bon, il y a ça. Et alors, l'autre truc, messieurs, Hélène Darroze n'a pas participé à la dernière chance. On nous dit elle a aussi raison personnelle. Alors à ce moment-là, moi je suis parti dans toutes les théories de en fait ils ont chopé le Covid, on te les a écartés le temps d'une semaine. Lilian, on a dû dire vas-y, tu sais quoi, tu t'isoles, on te fera revenir la semaine prochaine. Donc ça fait un peu magouille et c'est peut-être ça qui m'énerve. L'autre truc, donc je le disais, Hélène Darroze n'a pas participé à la dégustation de la dernière chance, n'a pas non plus participé au verdict. Et on apprend sur Twitter en fin d'émission, je vais vous retrouver la source instantanément, d'après Stéphane Méjanès. Stéphane Méjanès, d'après sa bio, qui est écrivain et auteur de nos différents guides de cuisine, qui, pour le regarder un peu de temps en temps, parce qu'il est souvent retweeté par les tweetos de un peu drôle de Top Chef, et a l'air assez proche de l'univers de Top Chef et des participants, et donc annoncerait que Hélène Darroze ne reviendra pas pour les prochaines émissions. Elle aurait subi un deuil familial. Subi, je ne suis pas sûr de mon emploi, mais bref, vous avez compris. Elle aurait vécu un deuil familial et donc ne reviendrait pas. Et on nous annonce un chef que tout le monde adore. Alors messieurs, les paris sont ouverts. Qui voyez-vous revenir, Seb?
Oh ben c'est Gilles Goujon, je pense. Vu qu'il a les clés du studio, on l'a pas encore vu cette année, ils l'ont annoncé.
C'est clair. Marco, même, même idée?
C'est 100%. Gilles Goujon, il est déjà dans les vestiaires pendant les émissions, je crois. Ça doit être lui qui est la plume de Stéphane Rothenberg. On sait qu'il attend là dans l'ombre que quelque chose arrive. C'est sûr que c'est lui.
Ah, attendez, je suis en train de lire, il y a un autre truc. Ok, ouais, non, il donne pas la réponse, mais Jeannès, de qui va revenir, mais il réexplique qu'elle n'était pas là. Elle était déjà absente apparemment pendant la dégustation avec le chef Botura, j'ai pas remarqué.
Après, mais sinon, non. Si on fait une wild card, ils peuvent nous sortir la carte Cyril Lignac, qui a l'air d'être le mec de M6.
Oui.
Des situations désespérées, ça m'étonnerait pas non plus.
C'est vrai. Je pense que certains imaginent et espèrent un retour de Michel Sarron, mais j'ai beaucoup de mal à y croire.
Ah non,
vu comme ça s'est fini. Ouais, j'ai du mal. Pourquoi pas une autre femme? Pourquoi pas Anne-Sophie Pic, par exemple, ou alors Stéphanie Lekelec? Ça, j'avoue que j'espère moins, mais bon. Ou un Jean-François Piège, si on est dans les anciens, jurés.
que tout le monde aime bien, je pense pas, là.
Mais peut-être pas, c'est clair. Bon, donc voilà, en attendant, on n'aura pas d'Hélène Darroze pour la prochaine émission, peut-être pas les suivantes non plus, on verra. Le décès de son papa et de son oncle à quelques jours d'intervalle en octobre. Ok. On en apprend un peu plus chaque minute, en tout cas au fur et à mesure que je lis en même temps que je vous relate tout ça. Bon, on verra. Tant mieux si c'est un chef qu'on aime bien, c'est toujours sympathique. Et donc la semaine prochaine, il y a cette épreuve où tout le monde joue sa vie dans le concours, que je trouve un peu abusé parce que à tout le monde, ça rebalance un peu trop peut-être les brigades, on verra. Et j'ai oublié quelle était la première épreuve. Le premier chef, c'est... Bah, je sais plus. Si vous vous souvenez, dites-moi, sinon...
Bah, non, sinon, là, comme ça, je sais plus.
Bon, bah tant pis. On verra la semaine prochaine. C'est comme ça que va se terminer cet épisode de Micro-Ondes. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, comme toujours, et sur les réseaux sociaux Twitter @MicroOndesCast et Facebook et Instagram Micro-Ondes Podcast en entier. On a le droit de mettre plus de caractères sur Instagram et Facebook. Marco, merci.
Merci à toi.
Et Seb également, merci beaucoup pour tes analyses poussées sur le goût des abats notamment.
Merci à vous.
Un grand merci, à la semaine prochaine. Attention, semaine prochaine, épreuve, émission le jeudi. On n'a pas encore décidé de ce qu'on fera pour l'émission. On vous tiendra au courant. Il faut qu'on y pense d'ailleurs. Bah, je vais lancer le message sur le groupe de communication interne de la rédaction juste à la fin de cette émission. Merci encore à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Bon appétit. Ciao, ciao.
Bye bye.
Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadeau.
Je veux toilette.
Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre.
30 secondes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Média, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby. Barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir, c'est dans Occupation que ça se passe, un mercredi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast habituelles.